Sud Radio 10h midi.
Et on vous raconte tous les coulisses de cette émission, l'œil de l'expert. On essaye de joindre et on comprend que ce soit un petit peu compliqué. La photo-reporter de guerre, Véronique de Vigry, qui est actuellement du côté de Kiev. Et on a quelques petits problèmes pour arriver à la voir, hein, les lignes téléphoniques, dans ces cas-là, puisqu'elle est à Kiev en ce moment. Parfois, c'est un petit peu compliqué. On voulait connaître de l'intérieur ce travail des photo-reporters, parce qu'ils sont très nombreux sur le terrain. Quels sont les dangers, comment font-ils? On a entendu tout à l'heure avec vous, hein, Gilles Gansman, la difficulté des journalistes à travailler sur place, les dangers. Il y a déjà eu un journaliste qui a été tué, un autre a été blessé, vous le disiez. Donc voilà, c'était intéressant. On va essayer de la...
Et puis le travail remarquable que peut-être nos auditeurs ne connaissent pas, le travail de ce qu'on appelle les fixeurs, c'est-à-dire des gens ukrainiens qui les aident. Parce que, évidemment, ce qui est très compliqué là-bas, c'est de trouver de la nourriture, de trouver aussi de quoi pouvoir envoyer de l'électricité, envoyer des images. Et puis, alors, il y a un petit secret, c'est que en Ukraine, il y a un seul hôtel où il y a tous les journalistes. Oui. Et le fait que tous les journalistes soient réunis dans le même hôtel, ça les protège des bombardements. Parce qu'en effet, la Russie sait que dans cet hôtel, il n'y a que des journalistes. Et donc, c'est une façon de les protéger. Mais souvent, les fixeurs les amènent parfois chez l'habitant ou dans d'autres endroits pour qu'ils puissent circuler. Être journaliste de guerre, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. Et d'ailleurs, il y a des stages proposés par l'armée française.
Par l'armée, bien sûr, oui.
Que les journalistes font.
À la demande d'ailleurs des rédactions, et c'est pour ça aussi qu'ils sont. Alors, ils sont identifiés, mais les photographes aussi de guerre, c'est le choix des photos, c'est
absolument.
Comment ils font et comment ils réalisent, ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils peuvent faire également. Je renvoie, aux photos reporters que vous pouvez suivre aussi, qui a été primé à Visa pour l'image à Perpignan. Éric Bouvet, grand photo reporter français, il a couvert tous les conflits. Et parfois il explique que sur le terrain tout simplement il pose son appareil et il en vient à aider des habitants, à aider des personnes qui sont en difficulté, parce que, et il dit, c'est avec nos confrères on fait exactement la même chose. Donc voilà, c'était tout ça qu'on tente de joindre, hein, Véronique de Vigry. Elle est originaire de Toulouse, elle a travaillé pour Match, pour les plus grandes rédactions, donc on verra ça dans un instant. On en profite, on est avec nos débatteurs, les premiers qui sont arrivés. Geneviève Götzinger, bonjour Geneviève.
Bonjour Christine.
Présidente de l'agence Image, Baptiste Ménard. Bonjour Baptiste.
Bonjour Christine.
Maire adjoint de Mont-Saint-Barœul, membre du Bureau national du Parti Socialiste. Et vont nous rejoindre également Nicolas Jeannetet, directeur des centristes et conseiller de Paris. Alexandre Malafaille, présidente du think tank Sinopia. Mais avec vous Gilles, on va démarrer, si je puis dire, le zapping de la présidentielle. Il s'est encore passé beaucoup de choses à la télévision avec nos candidats à l'Élysée.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
C'était l'émission surprise de TF1 hier, donc des candidats face à la guerre. Bon, en fait, ils sont partis dans tous les thèmes. Ils n'ont pas parlé que de l'Ukraine. TF1 nous a vendu une émission que face à la guerre, mais en fait, ils ont parlé de tous les sujets de la campagne présidentielle. Mais il y a eu quelques moments consacrés au conflit, comme Yannick Jadot, qui s'étonnait qu'on découvre que Vladimir Poutine était un dictateur.
Quand vous entendez autant de discours, Vladimir Poutine aurait changé. Mais regardons son histoire, regardons 20 ans de massacres, regardons 20 ans de crimes de guerre. Il n'a pas changé, Vladimir Poutine. Il a toujours été un dictateur. Il a toujours considéré qu'à partir du moment où dans son pays, les gens se battaient pour la liberté, il allait leur promettre la mort. Et quand les pays se battaient pour la démocratie, il allait leur promettre la guerre. Donc évidemment... trop de complaisance.
Et plus tard, indirectement, Emmanuel Macron lui a répondu. Écoutez.
C'est trop facile de dire ça. Vladimir Poutine, ça a été un dirigeant qui a été aussi celui de l'émancipation de son pays, de son ouverture, de l'entrée au G8, puis au G20, de la reconnaissance internationale. Bon. Donc il y a eu une évolution, une forme de normalisation, de notabilisation, si je puis dire, de la Russie et de ses dirigeants. Il y a eu ensuite, à partir du tournant de la guerre, il y a eu évidemment une guerre très particulière dans le Caucase, en Tchétchénie, il y a eu ensuite la guerre en Géorgie, il y a eu évidemment ce qui s'est passé en Syrie, il y a eu 2014 déjà avec l'Ukraine, et aujourd'hui cette escalade. Néanmoins, je l'ai toujours dit, sans naïveté aucune, il faut prendre les dirigeants tels qu'ils sont à nos frontières.
Ils avaient raison, Baptiste Ménard, Geneviève, de pas nommer précisément. Hier soir, plusieurs fois, la question a été posée. Est-ce que Vladimir Poutine est un dictateur? Et plusieurs candidats ont dit, je ne peux pas le qualifier comme tel. On sent qu'ils tournent autour de la question, Geneviève, parce que c'est...
Moi, je pense qu'ils ont raison de ne rien gêner en ce moment, de ne rien faire qui pourrait hypothéquer la recherche d'une solution négociée, d'une solution diplomatique à cette guerre épouvantable qui se déroule en Ukraine. Donc à partir de là, on sait tous que c'est un dictateur, horrible, épouvantable. Ce qu'il fait est horrible, qualifier ce qu'il fait d'horrible est quelque chose. Le qualifier lui de dictateur est autre chose. On ne peut pas à la fois être dans une tentative de négociation, avoir un pays qui maintient le fil avec Vladimir Poutine, un chef de l'État qui maintient le fil avec Vladimir Poutine, et le gêner en quelque sorte. Et je pense que c'était, voilà, c'est ce qu'ils ont tous tenté hier soir, avec plutôt de succès, plutôt pas mal de succès de ce point de vue.
Oui, effectivement, c'est une situation extrêmement préoccupante qui, bon, il faut bien le dire, obstrue complètement l'élection présidentielle, et on sent bien que les candidats en responsabilité ne veulent pas avoir une parole qui pourrait gêner l'action diplomatique de la France pour résoudre ce conflit dont, malheureusement, en tout cas à cette heure, nous voyons bien qu'effectivement, Vladimir Poutine ne se place pas dans une situation de dialogue ou de résolution du conflit. Mais pour autant, je comprends effectivement l'attitude des candidats hier soir.
Donc il ne faut pas insulter, entre guillemets, je mets le mot insulter l'avenir, et surtout les questions diplomatiques autour de ce dossier.
Il ne faut pas insulter l'homme, en fait. Pas insulter l'homme. Vous ne pouvez pas, en même temps, tenter de négocier quelque chose. Et on sait
tous les candidats ne sont pas comme ça, hein, ce matin.
Quand même, globalement.
Par exemple, on prend Jean Lassalle ce matin, il parlait de Joe Biden, il parlait d'un président sénile.
Ouais, mais c'est,
enfin,
c'est
Jean,
pas...
Lassalle, Jean Lassalle représente
sur Sud Radio.
Que lui-même, je suis désolée de le dire. On parlera tout à l'heure
de ces candidats,
de la pertinence d'avoir invité ou pas invité les tout petits microscopiques candidats hier à cette élection. Bon, enfin, Jean Lassalle qui évoque des questions diplomatiques, bon, c'est pas très, 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 très sérieux, même si l'homme est très sympathique.
Allez, on continue alors que nous rejoint à l'instant et en direct Nicolas Jeanneté. Bonjour Nicolas, bonjour, merci d'être bien. Là. Très bien. Directeur des Centristes et conseiller de Paris. Alors, on a commencé notre débat un petit peu plus tôt que prévu parce que je le rappelle, mais vous n'êtes pas en retard, c'est qu'on essaye d'avoir une photoreporter qui est à Kiev en ce moment et son téléphone pour l'instant ne me fait ton signe, ne répond pas. Très certainement effectivement que la situation sur place ne permet pas de répondre au téléphone comme nous, tout un chacun aujourd'hui dans un pays en guerre, une ville qui a reçu des bombardements cette nuit. On en est donc au zapping de la présidentielle avec Gilles. On écoutait les candidats hier soir sur TF1, enfin certains des candidats, et on parlait de ce que disaient les candidats au sujet de la personnalité de Vladimir Poutine. Vous avez d'autres extraits, Gilles ?
Oui, alors ça ne concerne plus l'émission parce que je sais que vous allez en débattre, mais je voulais vous amener sur un autre débat. Je vous parlais tout à l'heure dans mon zapping de la Russie qui a coupé Instagram à 63 millions d'abonnés russes. Hier sur BFM Business, ils ont eu un débat avec Clément David, un spécialiste des réseaux sociaux, et qui a fait remarquer que l'Europe n'a pas de réseaux sociaux.
Et donc, il y a Telegram qui est russe, ils ont leur version Facebook qui s'appelle V-Contact, etc. Et donc ça marche en Russie pour les Russes. Et ce qui est intéressant,
les Russes étaient majoritairement sur V-Contact d'ailleurs.
Exactement.
Ils n'étaient pas vraiment sur des plateformes comme Facebook.
Et la question qui se pose, c'est, enfin moi en tout cas la projection que je fais, c'est ok. Les Américains ils ont leurs réseaux sociaux, les Russes ils ont leurs réseaux sociaux, ils ont Telegram, ils ont machin. Nous, l'Europe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Et en fait, on n'a rien du tout. On est complètement à poil.
Bah, nous, on a encore les réseaux.
On a les réseaux américains. Si on est dans une projection où un jour il y a un besoin d'indépendance ou de souveraineté quelconque sur des réseaux qui sont, en plus, les réseaux sociaux aujourd'hui, on le sait tous, c'est pas juste poste une photo de mes vacances, c'est de la communication. On en parlera peut-être avec TikTok après, mais donc en fait, nous, le vrai truc, c'est que si on se retrouve dans cette situation en Europe, on n'a rien.
Oui, Gilles.
Et oui, si les Américains nous coupent les réseaux sociaux, on n'a plus de moyens de communiquer. Et en temps de guerre, plus de moyens de communiquer sur les réseaux sociaux, ça deviendrait problématique. Ça serait peut-être bien que l'Europe prenne conscience qu'il faudrait peut-être un réseau européen de communication, non ?
Ouais, Nicolas.
C'était d'ailleurs l'objet de mon coup de gueule la semaine dernière où je parlais de souveraineté numérique et je disais que finalement Instagram, TikTok, Facebook, etc., c'était des gens américains, c'était les GAFAM, et qu'aujourd'hui en Europe, il faut enfin, et en France, qu'on mette en place des aides énormes.
C'est pas faux d'avoir des, on va dire,
des aides énormes pour essayer de créer des géants aujourd'hui des réseaux sociaux européens. Effectivement, nous n'en avons pas et c'est un vrai, vrai souci. On dépend totalement de la Chine et des Américains.
Voilà, donc effectivement, c'est un bon débat, hein, les réseaux sociaux sur comment ils sont utilisés aujourd'hui. Tout à l'heure, vous aviez effectivement l'extrait de ces youtubeuses, ces influenceuses russes qui étaient effondrées depuis pouvoir avoir Instagram. Et on voit qu'au-delà de tout ça, il y a beaucoup de questions.
On voit quand même que... Et puis on voit que quand même les réseaux sociaux sont des sources d'information et de désinformation. Vous savez, au temps de la Seconde Guerre mondiale, on était derrière son poste de radio en écoutant les messages codés qu'on avait durant la guerre pour la résistance. Ça n'a pas vraiment changé, à part que le poste à Galène et la radio se sont changés en téléphone portable et qu'aujourd'hui, en effet, ceux qui ont la main mise sur ces réseaux sont les Américains, les Russes ont leur propre réseau et les Chinois avec TikTok, et c'est devenu un vrai outil aussi de manipulation des foules. Donc oui, évidemment, il faudrait un réseau social européen pour aussi avoir notre propre souveraineté numérique, comme disait notre débatteur.
Oui, je suis complètement d'accord, évidemment, sur les réseaux sociaux européens. Cette crise fait prendre conscience, en fait, de tous les manques de l'Europe dans un certain nombre de domaines, que ce soit le domaine de la défense, de sa capacité à assurer sa propre sécurité, de son indépendance numérique, énormément de choses. Et on peut
même espérer... alimentaire, d'ailleurs.
Alimentaire, industriel, par rapport au gaz, enfin,
et
absolument.
Et le mot souveraineté, d'ailleurs, est le thème de cette campagne électorale, d'ailleurs. On parle que de souveraineté.
Et souveraineté européenne et non plus souveraineté nationale, voilà. Et ça c'est très important. Et on peut espérons tous ensemble que ce qui sortira de cette crise, parce qu'on en sort de cette guerre, enfin, c'est plus qu'une crise, finalement que cette prise de conscience débouchera sur autre chose qu'un simple vœu pieux, comme ça a souvent été le cas jusque-là.
Ce qui est fou,
concernant Alexandre Malafaï qui nous a rejoint.
Oui, vous avez démarré en avance d'habitude.
Non, mais on va vous expliquer pourquoi.
Je sais, tout expliqué, donc je suis très content d'être là, je vous remercie. Non, mais ce que je crois surtout, enfin, en complément de ce qui a été dit, c'est qu'on a été les idiots utiles de la mondialisation en Europe. On a cru très naïvement que le marché, la régulation du marché allait s'opérer, que tout ça nous allait être apporté de manière très bienveillante, qu'on pouvait sous-traiter en Chine toute notre industrie, qu'on pouvait compter sur les Américains, qu'on pouvait compter sur les uns et qu'on pouvait compter sur les autres. Et on a perdu de vue nos intérêts stratégiques, nos intérêts vitaux sur un plan européen. Et c'est une faute politique extrêmement grave de tous ceux qui ont présidé aux affaires de nos pays et de l'Europe depuis 30 ans. C'est vraiment très grave ce qui se passe. Parce que, pardon, je partage l'optimisme de Geneviève, mais oui. Je voudrais juste le tempérer sur un point. C'est que pour reprendre la main... sur tout ce qui nous manque aujourd'hui pour retrouver une pleine et entière souveraineté au niveau national et au niveau européen, ça nous prendra dans le meilleur des cas 15 ans, et si on y arrive, parce que le chemin pour y arriver ne sera pas sans embûches. Je donne un exemple que j'aime bien citer, la question des semi-conducteurs. Hein, personne ne sait ce que c'est, mais techniquement, il y en a partout. Voilà, enfin, je veux dire, techniquement, oui, on ne sait pas où on les met, on sait qu'il y en a dans les iPhones, dans les voitures, il y en a partout. Sans semi-conducteurs, tout s'arrête. On ne peut même pas faire une émission de radio ce matin. Eh bien, aujourd'hui, ils sont pratiquement pour l'essentiel fabriqués à Taïwan. Ouais. Ils sont fabriqués avec des technologies d'origine européenne, y compris sur l'impression et sur la technologie qui va avec. Mais sauf que maintenant, si on veut réimporter ça sur notre continent, il faut 350 milliards d'euros pour réindustrialiser notre continent. Et il faut 10 ans pour y arriver.
Est-ce que ça veut dire que certains avaient raison avant les autres?
Et évidemment, dans cette guerre-là.
Oui, Gilles.
À noter que dans cette guerre-là, il y a aussi le fluor qui sert à créer ces semi-conducteurs. Eh bien, il était fabriqué à 60% en Ukraine, et donc on va aussi avoir des problèmes sur le fait qu'on n'a pas le fluor. Le fluor alimente les lasers qui servent à faire beaucoup de choses pour les téléphones portables, et on va avoir un vrai souci, une vraie pénurie. Je crois que aussi on est en train de voir la fin de la mondialisation. Un peu le discours un peu partout, c'est que chacun doit être chez soi, et ça c'est un vrai nouveau discours aussi que chacun doit avoir son armée, son alimentation, sa façon de diriger. Et donc, c'est peut-être la fin d'une certaine mondialisation et le retour à chacun chez soi.
Chez soi en Europe, quand même, sur des vastes ensembles.
Sur des vastes ensembles, on va y revenir, mais peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est encore trop grand, peut-être aussi, de ce côté-là. Le débat va s'ouvrir. Merci Gilles Gansman. Demain, donc, avec Valérie. Moi, je vous embrasse. Dans un instant, on va ouvrir ouvrir donc le débat avec nos quatre débatteurs du jour qui sont arrivés en cours de route. Nicolas Jeannetet, Geneviève Götzinger, Alexandre Malafaye et Baptiste Ménard. À tout de suite sur Sud Radio et avec vous également 0826 300 300 si vous le souhaitez et vos réactions sur les réseaux sociaux. On va revenir sur tout ça. Je vous donne le menu. Dégel du point d'indice, la France face à la guerre hier soir sur TF1 et Mélenchon qui passe devant Pécresse dans notre rolling. Ça fait partie des sujets qu'on va évoquer tous ensemble. À tout de suite.